Radio Okapi.
Au sommaire, ce matin, 477 députés proclamés élus hier soir tard dans la nuit par la CENI sur les 500 qui doivent dorénavant siéger à l'Assemblée nationale. La liste est à compléter pour les circonscriptions où les élections ont été annulées pour fraude ou n'ont simplement pas été organisées à cause de l'insécurité. Annoncé en novembre 2023 lors de la signature d'un plan de retrait, le départ de la mission onusienne de la RDC n'est plus qu'une question de mois. D'ores et déjà, la chef de la MONUSCO a annoncé hier samedi pour fin avril prochain un premier retrait total de la province du Sud Kivu. Pour les autorités congolaises, il ne reste plus que soit gagné le pari d'un modèle réussi de retrait. La surpolitisation des institutions universitaires de la RDC freine l'atteinte des objectifs de développement dévolus à ce secteur. Avis du professeur Roger Kibasomba, enseignant à l'Université de Kinshasa. Il est l'invité de ce journal. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonjour, bienvenue et bonne écoute. Polydor Basunga sur la mise en onde et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Publication la nuit d'hier samedi à ce dimanche 14 janvier des résultats provisoires des élections législatives nationales du 20 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante. 477 députés ont été proclamés élus sur les 500 qui doivent siéger à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Les circonscriptions où les élections ont été annulées pour perturbation du déroulement des votes ou celles où les scrutins n'ont pas été organisés à cause de l'insécurité pourront compléter cette liste. Des détails avec grâce à Mzati Masanzi.
Les quatre premiers membres du bureau de la CENI alternaient dans la publication des résultats au regard de la diversité des provinces. Cette publication se faisait par circonscription électorale. La CENI avance un chiffre de 17 976 551 suffrages valablement exprimés au niveau national, avec un taux du seuil égal de représentativité de 1%. 44 partis et regroupements politiques ont atteint le seuil. L'UDPS Tshisekedi est le parti qui emporte plus de sièges. Même si la circonscription électorale de Moba Mbongo dans le nord Ubangi a été oubliée dans la lecture, ces résultats sont contenus dans la décision de la CENI, affirme notre source à la centrale électorale. Si certains ont été réélus, plusieurs figures font leur première apparition. Quatre candidats à l'élection présidentielle raflent les sièges à l'hémicycle. C'est notamment Matata Ponyo Mapon, élu à Kindu, Constant Mutamba à Lubao, Jean-Claude Baende à Mbandaka et Adolphe Muzito à Kikwit. Justin Kalumba, proclamé élu dans la circonscription électorale de Kasongo au Maniema, était parmi les 82 candidats aux législatives dont les suffrages étaient annulés par la CENI pour notamment fraude électorale. Selon notre source, le candidat a obtenu gain de cause après son recours introduit à la CENI. Une décision sur sa réhabilitation sera publiée, affirme la même source. La liste des députés nationaux est encore incomplète, car d'une part, les scrutins ont été annulés dans les circonscriptions de Massimanimba au Kwilu et Yakoma au nord Bangui pour fraude. Et d'autre part, les élections n'ont pas été organisées à Kwamout dans les Maïndombe ainsi que dans les territoires de Massissi et Routour au nord Kivu à cause de l'activisme des groupes armés.
Grâce à Mzati Masanzi sur Radio Okapi. Notez qu'au cours de la cérémonie de la publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux, le président de la Commission électorale nationale indépendante est revenu sur les irrégularités qui ont émaillé ce processus. Irrégularités ayant conduit à l'annulation de la totalité des suffrages obtenus par plus de 80 candidats aux législatives. Denis Kadima annonce également des sanctions aux personnels de la CENI impliqués dans les antivaleurs. On l'écoute encore une fois au micro de grâce à Mzati Masanzi.
Face aux irrégularités constatées et soulevées par la clameur publique, la CENI ne pouvait rester indifférente et se devait d'accorder une attention particulière afin de déceler tous les cas de fraude et d'abus. L'attente a pu paraître longue, mais la CENI se devait de protéger et de restaurer la voix des électeurs congolais confrontés au gangstérisme électoral. C'est ici l'occasion de remercier les électrices et électeurs congolais pour avoir dûment documenté ces irrégularités, notamment grâce à la non-coupure de l'Internet, contrairement aux processus électoraux passés. J'aimerais rappeler que cette action de la CENI n'est nullement une chasse aux sorcières, mais elle s'inscrit dans la ligne droite de son plan stratégique qui est principalement celui de s'aligner sur les standards électoraux internationaux. La CENI assume pleinement la démarche qui a été la sienne de documenter les irrégularités afin de garantir la transparence et l'intégrité des élections organisées le 20 décembre 2023. Et elle annonce donc des sanctions exemplaires à l'égard de son personnel personnel qui a participé au cas de fraude. J'aimerais attirer l'attention de toutes les parties prenantes sur le fait que, depuis 2006, les processus électoraux en RDC sont confrontés aux mêmes difficultés et irrégularités. La viabilité de notre jeune démocratie dépend aujourd'hui des leçons tirées des quatre cycles électoraux. Il est insoutenable que les élections continue à se tenir en période pluvieuse. Or, la saison sèche offre un environnement propice pour les déploiements et l'acheminement du matériel électoral.
Autre volet de l'actualité, il ne peut plus y avoir un débat quelconque sur le principe du retrait de la MONUSCO de la RDC. Il ne faut pas non plus avoir de la précipitation inconsidérée. Ainsi s'est exprimé le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. C'était au cours de la conférence de presse conjointe MONUSCO-RDC sur le désengagement total de la MONUSCO hier samedi ici à Kinshasa. Pour Christophe Lutundula, le chronogramme est déjà établi et adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il ne reste plus que soit gagné le pari d'un modèle réussi de retrait. On l'écoute Christophe Lutundula dans cet extrait que nous propose Jacques-Yves Moulima.
Il faut relever et souligner avec force qu'il ne peut plus y avoir un débat quelconque sur le principe du retrait de la MONUSCO. Il ne peut plus y avoir des atermoiements, comme disait le roi Baudouin, parce que nous sommes à Kinshasa, funeste. Il ne faut pas non plus avoir la précipitation inconsidérée. Et ça, c'est la règle que nous avons observée de part et d'autre pour que nous puissions réussir cette entreprise qui ne manque pas de délicatesse et de zones à haut risque. Il faut éviter avec sagesse et encore une fois avec responsabilité pour que, comme l'a dit le président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, je me rappelle le 21 septembre, le retrait de la MONUSCO de la RDC soit un modèle réussi de retrait d'une force des Nations Unies qui est déployée dans un pays pour y restaurer la paix et promouvoir les principes universels, les valeurs de démocratie, état de droit et le développement partagé dans ces pays-là.
Disons également que la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC est revenue sur les différentes séquences de ce désengagement de la RDC. Bintou Keïta a fait savoir que tous les trois mois, une évaluation de ses retraits sera faite avec toutes les parties prenantes. On l'écoute également dans cet extrait choisi par Jacques-Yves Moulima.
Nous sommes en train de travailler avec la force, avec les FRDC, la PNC et tous les autres au niveau de la partie gouvernementale et aussi des Nations Unies pour que les troupes de la MONUSCO soit partie le 30 avril du Sud Kivu. Ça veut dire que les FRDC et la PNC vont renforcer leur présence dans le Sud Kivu et notamment dans les endroits où nous avons les personnes déplacées internes qui pour le moment sont avec la responsabilité des casques bleus. Donc au 1er mai, la MONUSCO va se focaliser sur le Nord Kivu et l'Ituri, pour ce qui concerne la protection des civils. Pour ce qui concerne la fermeture effective du Sud Kivu, ça sera le 30 juin 2024. Et le 30 juin 2024, le Conseil de sécurité attend une évaluation politique, stratégique et opérationnelle de comment s'est passé la première phase du désengagement de la MONUSCO du Sud Kivu. Nous devons en même temps préparer la phase 2 qui est le Nord Kivu et la phase 3 après qui est aussi le retrait de l'Ituri. Tous les trois mois, nous allons faire une évaluation de l'état des lieux, de comment nous sommes en train de mettre en œuvre ce plan de désengagement.
Par ailleurs, 5 ans après les massacres de Yumbi dans la province du Maïndombé qui a causé la mort à plus de 500 personnes, l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, a encouragé les autorités judiciaires à relancer les enquêtes pour rétablir les responsabilités dans cette affaire. Le coordonnateur de cette organisation l'a dit hier samedi à Kinshasa dans un entretien accordé à Radio Kapi. Mirande Moulumba a également estimé qu'il est temps que les victimes de ces atrocités obtiennent gain de cause. Il regrette que certains commanditaires de ces massacres jouissent encore de l'impunité. Mirande Moulumba a été joint par Blaise Ndongala Mayanda.
Nous avons voulu rappeler au procureur près la Cour de cassation que en date du 16 décembre 2018, il y a eu le carnage au sens propre du terme dans les territoires de Yumbi, précisément dans la province de Maïndombé, où il a été constaté qu'il y a eu plusieurs violations systématiques des droits de l'homme. Et face à cette situation, nous avons voulu vous rappeler, bien entendu, au procureur que ça fait pratiquement jour pour jour plus de 4 ans où les victimes de ces atrocités attendent impatiemment l'obtention de la justice, mais pourquoi pas aussi la réparation. Nous avons pensé absolument que cette situation doit absolument attirer l'attention du procureur près de la Cour pénale de cassation afin de pouvoir mettre en musique ses services pour voir dans quelle mesure il va devoir ouvrir, bien entendu, les enquêtes, parce que la situation qui semblait déjà être oubliée.
Et tout à fait autre chose à présent. Au Maniema, le bureau de la compagnie aérienne Congo Airways a été envahi hier samedi 13 janvier par les passagers. Ces derniers, en colère, protestaient contre l'annulation encore une fois du vol Kinshasa-Kindu prévu la veille, c'est-à-dire le vendredi dernier. Ces passagers qui disent être au bout de leur patience appellent à l'implication des autorités compétentes pour résoudre ce problème de vol. Le chef d'escale de Congo Airways Kindu, tout en présentant ses excuses à ses clients, a justifié ce énième report par un problème technique. On écoute à ce sujet Maître Paul Kikuni Kwamba, porte-parole des circonstances des passagers, au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes presque plus de 200 personnes ici qui ont payé leurs billets chez Congo Airways. Mais ça fait 4 reprises aujourd'hui. On est en train d'annuler les vols. Nous ne comprenons pas. Et à chaque annulation des vols, on ne fait que nous mentir comme des petits-enfants. Mais nous subissons un préjudice sans précédent. Chose grave, Congo Airways, c'est une compagnie de l'État. Et nous sommes en train de regretter parce que c'est l'État qui escroque, qui est en train de maltraiter la population. Après ces 4 annulations de vol, nous ne sommes pas pris en charge jusqu'à maintenant. Nous dormons à la belle étoile, nous mangeons à sauve-qui-peut et donc nous sommes délaissés par l'État, par la compagnie et on ne fait que nourrir des promesses. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de solliciter l'implication de l'État congolais et nous lançons cet appel, cette SOS au gouvernement congolais à Kinshasa là-bas pour qu'il puisse nous assister, qu'il nous envoie même un Airbus pour nous prendre. En tout cas, nous sommes au bout de notre patience.
Dans la province de l'Équateur, la Caritas de la province ecclésiastique de Mbandaka entend redynamiser ses activités en vue de promouvoir la pastorale de la charité et élaborer de nouvelles stratégies. Ces stratégies devront aider à bien mener des plaidoyers pour une bonne prise en charge de la malnutrition qui sévit dans plusieurs localités, ainsi que les sinistrés des inondations qu'on compte dans tous les diocèses de l'Équateur. Voilà qui explique la tenue depuis le 12 janvier en Mbandaka de l'Assemblée générale de cette Caritas diocésaine que compte la province. Le président de la commission épiscopale de la Caritas Équateur, Mgr José Bernard Licolo, revient sur les attentes de ces assises. Il est au micro de Paul Richard Malengela.
La première attente, c'est que nous puissions avoir les informations des Caritas diocésaines, les informations relatives à leur état de santé. Est-ce que ces Caritas fonctionnent comme il se doit? L'autre attente, c'est évaluer la qualité des collaborations entre les Caritas diocésaines et la Caritas provinciale. Cette collaboration est à quel niveau? Arriver à une redynamisation des Caritas diocésaines et de la Caritas provinciale en lien aussi bien avec les Caritas diocésaines qu'avec Caritas Congo. Arriver à trouver un outil de travail qui va constituer une feuille de route comme une diaconie, c'est-à-dire une église servante et une église qui a une attention particulière aux pauvres, à toutes les personnes qui sont en situation de nécessité.
Dans la province de la Tchopo, l'UNICEF a remis hier samedi à la ministre provinciale de la Santé publique ainsi qu'à son collègue en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique les ouvrages construits par l'ONG Programme de promotion des soins de santé primaire, PPSSP en sigle. Ces ouvrages ont été financés par l'UNICEF dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de l'accès à l'eau, hygiène et assainissement dans 8 formations sanitaires et 2 écoles primaires de la ville de Kisangani. Le coût global des travaux est évalué à 266 217 dollars américains, dont 254 506 de l'UNICEF. Un reportage de Jacques Moukonkoulé.
Plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie organisée dans l'enceinte du centre de santé Malkia. Une occasion pour le chef de bureau de l'UNICEF Kisangani d'énumérer quelques ouvrages construits et remis ces jours aux écoles primaires Malkia et Chololo. Mokhtar Khan.
La construction de 2 forages mécaniques fonctionnant avec des pompes solaires et possédant un système de mini-adduction d'eau. On note aussi la construction d'un bloc de latrine à fosse alternée à 4 portes et d'un bac de lessive à la clinique universitaire. La construction d'une zone de de déchets équipés d'un incinérateur Montfort.
Le chef de bureau de l'UNICEF espère que cette dotation pourra contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau, hygiène et assainissement dans les écoles primaires et formations sanitaires ciblées. Pour sa part, le médecin chef des zones de santé de la Tchopo, Dr Lolo Ofoidi, se réjouit de l'acquisition de ces ouvrages. C'est pourquoi il recommande aux bénéficiaires d'assurer leur protection.
Il y a quand même l'effet de fonctionnement qui doit aider la pérennisation. Ils ne savent pas partir, mais nous allons rester pour protéger notre ouvrage. C'est ce que nous avons imploré à la communauté, aux directeurs de l'école, les enseignants et aux élèves de bien protéger l'ouvrage qu'on vient de donner aujourd'hui.
Au terme de cette cérémonie, les invités ont visité les différents ouvrages offerts ce jour à l'autorité provinciale. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, le mouvement patriotique du salut, ex-parti au pouvoir sous Idriss Déby père, a investi le président de transition comme son candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est alors que le pays se dirige vers des élections générales qui doivent mettre fin à la transition en octobre de cette année, si tout se passe comme prévu. Scandale de corruption au Nigeria, le président Tinubu a suspendu une ministre ainsi que l'agence publique dédiée à la pauvreté. C'est en raison d'accusations de détournement des fonds publics.
L'invité.
La surpôle utilisation des institutions universitaires de la RDC freine l'atteinte des objectifs de développement dévolus à ce secteur. C'est l'avis du professeur Roger Kibasomba, enseignant à l'Université de Kinshasa et ancien secrétaire académique à l'ISP Bukavu. Il est l'invité des radios Okapi au micro de Jean Kassami.
Professeur Roger Kibasomba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes professeur d'université, vous sillonnez à gauche, à droite, en République démocratique du Congo.
Je suis professeur ordinaire, plus de 25 ans. J'ai fait les sciences de communication, les sciences d'organisation et de gestion, et je me suis spécialisé en économie.
Quel état des lieux pouvez-vous établir aujourd'hui sur le fonctionnement des universités en République démocratique du Congo?
Il est vrai que les plans sont là, les textes sont là, les documents sont là, mais jusqu'à quel point ils sont suivis, c'est ça aussi le problème. Il y est supposé, par exemple, autant d'heures qu'un professeur, un assistant, un CT peut avoir, etc., et des différentes catégories. Mais ça commence à avoir des problèmes, puisque plus on recrute dans le sens politique, on engage pour des raisons politiques, plus nous donnons moins de chances à ce que nous puissions avoir. On va essayer de miéter, par exemple, des charges horaires pour donner à deux ou trois personnes. La seule raison, il faut accommoder tout le monde, créer la place pour tout le monde. Ça crée de sérieux problèmes. La politique, c'est partout. Les nominations sont devenues aussi politiques. Et pratiquement, cela gêne un peu et affecte la qualité de l'enseignement supérieur et l'objectivité avec laquelle les choses devaient se faire.
Ceux qui ont fait l'université il y a 20 ans, et aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, on ne se retrouve plus. La vente des syllabus, motiver les enseignants, et pourtant ils sont payés par l'État.
Normalement, les universités devaient être subsidiées. Il y a un temps où les étudiants étudiaient par des bourses. Il n'y a plus de bourses. Les institutions devaient être subsidiées. Il n'y a plus de subsides. Et tout se rabat au niveau de frais de scolarité que les étudiants, les parents doivent payer. Et quand les parents doivent payer, nous qui sommes dans l'université, on ne doit pas perdre de vue qu'il s'agit de redevances. Les redevances sont autorisées par une loi et imposent le paiement à tout le monde. Donc, les problèmes d'équité se posent. Tous les enfants qui viennent à l'université doivent être traités également, sans discrimination, sans tendance, puisque tous ils sont là, puisqu'ils payent. Et ils payent en termes de redevances, à faire fonctionner l'université.
Même les promotions dans des universités se font au prorata du quota de partis politiques.
Compte tenu de la politique, on pouvait comprendre que les DG, par exemple, peut-être jusqu'au niveau de... Mais les textes ne permettaient pas que les gens puissent se recruter au prorata des partis politiques. Puisqu'il s'est dit que l'issu est apolitique. Les textes ne permettent pas tout ce qu'on est en train de faire, des recommandations, des commissionnements.
L'ethnicisme, le tribalisme, le colonialisme, on vit tout ça aujourd'hui à l'université, chose qui n'a pas existé il y a peu. Ce tableau sombre que vous venez de peindre, ça fait réfléchir plus d'un auditeur. Faut-il rester stagnant ou il y a une voie de sortie?
Il y a certainement une voie de sortie. Le ministère aujourd'hui est très emballé dans la réforme du secteur de l'enseignement supérieur. Mais cette réforme-là, ça doit aller pratiquement dans l'ensemble du secteur public. Mais être sérieux d'abord avec nous-mêmes. Prendre l'enseignement au sérieux. Je prends l'exemple de Cuba. on ne badine pas avec l'enseignement. De manière qu'aujourd'hui, ils produisent des cerveaux qui vont même aux États-Unis, qui servent même dans des pays européens avec une formation impeccable. Il y a des pays qui survivent aujourd'hui dont l'économie est essentiellement leur université. Les gens nous critiquent souvent, ils disent non, voilà un pays avec autant de ressources naturelles, mais incapable de transformer ces ressources naturelles. Le capital humain dont ils ont besoin, ça viendra d'où? Si vos universités ne peuvent pas produire cela, où est-ce que vous voulez avoir ça? Un pays comme le Congo, avec une population de plus ou moins 100 millions, ne devait pas pleurnicher pour l'expertise, pour transformer la matière première. On a autant d'universités, autant de centres de recherche, etc., qui devaient aider le pays à moins de temps à avoir ce capital humain. Capital humain qui soit congolais et qui puisse aider à transformer. Les pays qui maîtrisent la science et la technologie évoluent, avancent, même pour faire la guerre. Les pays qui ont rattrapé vite là, avec les drones, etc., qu'ils créent localement, il faut la guerre, mieux que même les pays développés qui n'en ont pas.
Professeur Roger Kibasomba, nous vous disons merci.
C'était un plaisir pour moi, merci beaucoup.
Professeur Roger Kibasomba, enseignant à l'Université de Kinshasa et ancien secrétaire académique de l'USP Bukavu, était notre invité. Il s'entretenait avec Jean Kassami. Fin de ce journal qui a été supervisé par Noëlla Luzitu Kabambi sous la mise en onde de Polydor Basunga. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.